à toutes et à tous et bienvenue dans Désamorce, votre émission d'actu hebdomadaire qu'on vous présente en duo avec Julien. Salut Julien!
Salut tout le monde, salut Magali! Comme chaque vendredi, on vous résume l'actualité de la semaine, puis on vous présente un décryptage dédié cette semaine au câble USB-C. Il sera bientôt à poser en Europe pour tous les téléphones et appareils électroniques. Enfin, pour la chronique culturelle, Magali, tu nous parles de Ray Charles à l'occasion des 18 ans de sa disparition.
Mais tout de suite, on démarre ce Désamorce avec l'actu de la semaine.
Et on commence ce journal avec une bonne nouvelle. Dès le 1er septembre prochain, l'abonnement tech ne coûtera plus que 1 euro par mois pour les 18-24 ans.
Exactement, cette mesure de quasi-gratuité devait entrer en vigueur en 2023, mais le gouvernement wallon a décidé de l'avancer de 1 an. Ce tarif d'1 euro par mois sera également valable pour les bénéficiaires de l'intervention majorée et pour les plus de 65 ans. Pour le ministre wallon de la mobilité, Philippe Henry, la mesure contribue à rendre les transports en commun plus attractifs, surtout dans cette période de crise énergétique avec une flambée des prix du carburant. A noter que le gouvernement wallon a également donné son feu vert pour l'instauration d'un abonnement à 5 euros, valable jusqu'au 30 septembre pour les réfugiés ukrainiens. Et autre bonne nouvelle qui concerne cette fois-ci l'UC Louvain, l'université figure parmi les 200 meilleures universités au monde selon le classement QS University Ranking. L'UC Louvain occupe la 195e place. Deux autres universités belges se trouvent également dans le top 200, la KU Leuven à la 76e place et l'UGent à la 143e place. Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont envolés mardi pour une visite officielle au Congo.
La première visite royale sur place depuis 12 ans, Philippe et Mathilde ont fait le déplacement pour célébrer les 60 ans d'indépendance du Congo. C'était en 2020, mais la visite a dû être reportée à 3 reprises, 2 fois à cause du Covid, 1 fois à cause de la guerre en Ukraine. La 4e tentative est donc la bonne. Ce mercredi, le roi Philippe a prononcé un discours fort dans lequel il a répété ses sincères regrets sur ce qu'il s'est passé à l'époque coloniale. Hier, Philippe et Mathilde se sont rendus au contact de la population à Kinshasa. Ils ont également visité l'Institut National de Recherche Biomédicale. Le couple royal restera sur place jusqu'à mardi prochain.
Et toujours à propos de la famille royale, la princesse Astrid est, elle, en mission économique aux États-Unis.
Oui, elle a même célébré ses 60 ans sur place à Atlanta. C'est là qu'elle a inauguré un nouveau laboratoire de Solvay. Au total, près de 500 hommes et femmes d'affaires font partie de ce voyage, tout comme des ministres, professeurs et recteurs d'universités ou encore des fédérations sectorielles. L'objectif, eh bien, c'est de signer des contrats pour les entreprises belges et de développer les relations économiques entre les deux pays. Cette mission économique, elle va se poursuivre jusqu'à mercredi prochain, en passant notamment à Boston ou encore à New York. Si vous comptez partir en vacances dans les prochaines semaines, pensez à réserver votre avion. Plus de 900 vols intra-européens ont déjà été annulés pour cet été.
En cause des pénuries de personnel, hier, Brussels Airlines avait déjà annoncé l'annulation de près de 150 vols. Cette fois, c'est au tour de Lufthansa, Swissair et Eurowings d'annuler des centaines d'autres trajets. A noter que du côté de Ryanair, c'est une menace de grève qui plane sur les vols européens cet été. Le personnel de cabine pourrait se mettre à l'arrêt dans les prochains mois suite à l'impasse des négociations en Espagne sur les conditions de travail.
Retour sur Terre, de violents orages ont encore touché la Belgique dimanche dernier.
Ils ont été particulièrement intenses en Flandre. Dans la province de Liège aussi, les pompiers ont été appelés une centaine de fois pour des coulées de boue, des routes inondées ou encore des caves inondées. Notamment à Anu, une des villes les plus touchées de Wallonie. Les pompiers ont dû travailler encore jusqu'à mardi sur place pour résoudre tous les problèmes. Une centaine d'interventions a aussi été recensée en province de Namur, notamment à Andenne et à Dinan, mais aussi dans le Hainaut. Un immeuble dans la commune de Binche a même été touché par la foudre. Les pompiers ont rapidement pu éteindre l'incendie sur la toiture, mais l'immeuble de 21 résidents est pour le moment inhabitable. Le CPAS a pu reloger les 7 résidents qui en ont fait la demande.
Direction Charleroi, à présent, la maison de l'horreur est en cours de démolition, Magali.
Oui, la destruction de la maison de Marc Dutroux à Marcinelle a débuté cette semaine. C'est là que Julie et Mélissa ont perdu la vie il y a 25 ans, et c'est là aussi que Sabine et Laetitia ont été séquestrées et violées, mais retrouvées vivantes. Depuis, une fresque avait vu le jour sur la façade de la maison. Elle va désormais laisser place à un jardin mémorial, un jardin suspendu, inaccessible au public, qui sera baptisé entre ciel et terre. Rappelez-vous, en décembre 2020, un cycliste avait volontairement bousculé une fillette dans les Hautes-Fagnes. L'affaire avait fait grand bruit, mais le geste avait été jugé involontaire et donc le cycliste n'avait pas été condamné. Mais désormais, c'est lui qui porte plainte contre le père de la petite fille.
Oui, il réclame des dommages et intérêts suite à la vidéo filmée par le père, puis postée sur les réseaux sociaux où on le montre en train de bousculer la fillette. Il estime que cette vidéo lui porte préjudice. Le cycliste affirme avoir été moqué suite à la vidéo et compare même le cas à du revenge porn. Il dit aussi s'être senti menacé et n'a plus sorti son vélo du garage depuis. Il demande donc une compensation financière à hauteur du prix de son vélo, 4 500 €, mais il déclare qu'il se contenterait d'1 € symbolique pour démontrer qu'on ne peut pas publier tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et de son côté, l'avocat du père de la petite fille plaide la liberté d'expression. Il affirme que la scène filmée est d'intérêt public puisqu'elle contient une information sur le comportement inadéquat d'un cycliste sur un chemin enneigé. Les avocats des deux parties ont plaidé ce mardi. Le verdict devrait être rendu au mois de septembre prochain.
Le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire suite aux contaminations à la salmonelle des produits Kinder.
Des contaminations qui aurait eu lieu, on le rappelle, dans l'usine Ferrero de Arlon. De nouvelles perquisitions ont d'ailleurs eu lieu sur place cette semaine. L'enquête est ouverte suite à une plainte déposée le 19 mai dernier par l'association de défense des consommateurs Foodwatch France. La réouverture était espérée pour le 13 juin, mais elle a finalement été reportée de quelques jours, le temps que cette usine d'Arlon soit totalement nettoyée. Direction le Royaume-Uni, de l'autre côté de la Manche, le Premier ministre Boris Johnson a réussi à sauver sa peau ce lundi.
Il faisait face à un vote de défiance qu'il a finalement remporté. Ce vote de défiance a été lancé par son propre parti, les conservateurs, suite au scandale du Partygate, des fêtes et des garden parties organisées en plein confinement au sein même de Downing Street, le ministère de Boris Johnson. Le Premier ministre a participé à au moins l'une d'entre elles et a d'ailleurs reçu une amende de la police, la toute première pour un Premier ministre en fonction. Malgré tout, Boris Johnson s'est donc sauvé de ce vote de défiance.
Aux États-Unis, une commission parlementaire a présenté cette nuit les premiers résultats de la longue enquête sur l'assaut du Capitole.
Oui, et selon cette commission, l'ex-président républicain était bien au centre d'un complot visant à le maintenir au pouvoir. La commission considère que l'assaut du Capitole a été le point culminant d'une tentative de coup d'État. On le rappelle, hein, en janvier 2021, à la suite d'un discours de Donald Trump, des manifestants s'étaient rendus au Capitole pour y entrer de force. Bilan, 5 morts et plus d'une centaine de blessés.
La Commission européenne se penchera sur la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne la semaine prochaine et plus précisément vendredi prochain. Elle pourrait prononcer son avis sur la demande de l'Ukraine mais aussi sur celle de la Moldavie et de la Géorgie.
Et l'Union européenne a également décidé de débloquer plus de 200 millions d'euros d'aide humanitaire pour l'Ukraine. Il faut dire que la situation est compliquée pour les Ukrainiens.
Oui, d'ailleurs, ils sont nombreux à avoir fui le pays. Près de 5 millions d'Ukrainiens ont été enregistrés comme réfugiés en Europe depuis le début de la guerre. Il s'agit d'une des plus grandes crises de déplacement de population humaine selon l'ONU.
Et sur place, les combats continuent de faire rage, surtout dans l'Est, à Severodonetsk.
Et le bilan humain continue de grimper. Selon les autorités ukrainiennes, chaque jour, jusqu'à 100 soldats ukrainiens sont tués. Parmi ces soldats, quelques volontaires étrangers, deux combattants étrangers. Les étrangers ont d'ailleurs été arrêtés, deux Britanniques et un Marocain, et ils viennent d'être condamnés à mort par les pro-russes de la République populaire de Donetsk pour mercenariat.
Une décision qui va à l'encontre de la Cour européenne des droits de l'homme, mais la Russie a décidé en début de semaine de ne plus appliquer les arrêts de cette cour.
Oui, la mesure a été votée mardi par le Parlement russe. La Russie décide de ne plus suivre les décisions votées par la Cour européenne des droits de l'homme. Il s'agirait en fait d'une réponse à l'exclusion de la Russie de l'Europe suite à leur invasion en Ukraine.
Et si la situation humaine est compliquée en Ukraine, le conflit pourrait aussi causer une crise agricole et alimentaire.
Oui, l'Ukraine et la Russie sont des grands exportateurs mondiaux de blé et les blocages actuels pourraient mener à des famines dans les pays les plus pauvres. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse d'ailleurs la Russie de blocage et de vol de céréales ukrainiennes. Il demande donc l'exclusion de la Russie de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
En sport, les Diables Rouges se sont largement imposés contre la Pologne ce mercredi.
Score final 6-1, il s'agissait du deuxième match de la Belgique en Ligue des Nations, quelques jours après la lourde défaite 1-4 contre les Pays-Bas. Lors de ce dernier match contre la Pologne, les Diables ont joué avec le maillot des Red Flames, une manière de soutenir nos joueuses belges qui disputeront l'Euro de foot début juillet. Côté masculin, le prochain match de la Belgique, c'est déjà demain, samedi, contre le Pays de Galles.
En cyclisme, le Belge Wout Van Aert a remporté la cinquième étape du Critérium du Dauphiné ce jeudi.
Ouais, il a devancé sur la ligne un autre Belge, Jordi Meus. Au général, Van Aert conserve son maillot jaune de leader avec un peu plus d'une minute d'avance sur l'Italien Mattia Cattaneo. Ce vendredi, place à la sixième étape entre Rive et Gap avec près de 200 km au compteur.
En tennis, double victoire belge lors des huitièmes de finale du tournoi de Rosmalen aux Pays-Bas.
Kirsten Flipkens s'est imposée contre l'américaine Anne Lee, 6-1, 6-1. De son côté, Alison Van Uytvanck a remporté son duel belgo-belge contre Elise Mertens en 2-7, 6-2, 6-3. Elle doit disputer son quart de finale ce matin contre la sixième mondiale, la biélorusse Arina Sabalenka. Kirsten Flipkens, de son côté, joue aussi son quart de finale ce vendredi contre l'américaine Shelby Rogers, 42e mondial. Et on termine ce journal avec un peu d'esprit festif.
Et oui, la ville de Mons est en pleine effervescence. Ce week-end, c'est le doudou, le premier doudou après 2 ans d'annulation suite au Covid. Tout au long du week-end, on retrouvera des concerts, des animations musicales, des bars éphémères en pleine rue, mais aussi et surtout une procession dimanche suivie du célèbre combat de Saint-Georges contre le dragon. Ensuite, lundi et mardi, place à la braderie et aux feux d'artifice.
Et bonne Ducasse donc à tous les Montois. Avant de passer au décryptage, comme d'habitude, on fait une petite pause en musique.
Et puisqu'on vient de parler de doudou, eh bien on se retrouve juste après le célèbre air du doudou. A tout de suite dans Des Amorces.
Avec un Z et sans E.
De retour dans Des Amorces, Julien, pour ton décryptage. Cette semaine, on s'intéresse à nos chargeurs de téléphone. D'ici la fin d'année 2024, nous aurons tous exactement les mêmes types de chargeurs pour nos appareils.
Exactement, un accord a été trouvé au niveau européen. Dès l'automne 2024, tous les appareils rechargeables devront être équipés d'un port USB-C. Ce fameux chargeur à l'embout symétrique qui peut s'insérer dans les deux sens. Les constructeurs devront proposer à la fois des câbles et des ports de recharge similaires en USB-C, mais aussi un même protocole de charge rapide.
Et la mesure ne concerne pas que les téléphones.
Oui, cette décision européenne s'applique aussi pour les tablettes, les liseuses, les écouteurs et casques sans fil, les enceintes portables et même les consoles de jeux vidéo. Une petite exception pour les ordinateurs portables, ils devront aussi y passer, mais ils bénéficient d'un petit délai supplémentaire, 40 mois de plus après l'entrée en vigueur du texte, soit aux alentours de début 2028.
Et pourquoi finalement imposer ses câbles uniques en USB-C.
Eh bien, cette mesure, elle est avant tout économique et écologique. L'Union européenne estime que les chargeurs jetés et inutilisés représentent environ 11 000 tonnes de déchets par an. Le fait d'avoir des chargeurs similaires pour tous les appareils devrait permettre de réduire ce chiffre de 1 000 tonnes et donc moins polluer. Et cela représenterait aussi une sacrée économie pour les consommateurs, jusqu'à 250 millions d'euros d'économies chaque année, selon le Parlement.
Et donc, même Apple et leurs célèbres iPhone et Mac devront se plier à la règle.
Exactement, au moins en Europe. En fait, cela fait 10 ans que cette idée est en réflexion. Ces dernières années, de plus en plus de constructeurs se sont tournés d'eux-mêmes vers la production d'appareils avec des recharges en USB-C plus universelles. Tous les constructeurs, sauf un, Apple, s'opposaient encore et toujours aux régulateurs européens. La marque à la pomme a toujours freiné des quatre fers et défendait bec et ongles ses chargeurs Lightning. Apple affirme que sa technologie de chargeur équipe actuellement plus d'un milliard d'appareils dans le monde, et donc pour eux, cette nouvelle réglementation rendrait obsolète leur chargeur Lightning, ce qui générerait un volume sans précédent de déchets électroniques. Mais pour le Parlement et le Conseil européen, le coût à gagner est plus intéressant sur le long terme. Ils devront approuver formellement cet accord après les vacances d'été pour une entrée donc en vigueur à l'automne 2024.
Merci Julien. Dans un instant, on passe à l'anniversaire culturel, une chronique dédiée ce vendredi à Ray Charles. Et pour l'occasion, on fait une petite pause en musique avec son célèbre Hit the Road Jack. A tout de suite dans Désamorce.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? This away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road.
Louise, 104.8 FM.
De retour dans la troisième et dernière partie de Désamorce, l'anniversaire culturel. Aujourd'hui, ça fait 18 ans que le chanteur Ray Charles nous a quittés. Magali, c'est l'occasion pour toi de revenir sur la vie du roi de la soul.
Oui, ou vous pouvez regarder le film biographique Ray aussi. Le résultat sera le même. Mais non, je rigole. On se met dans l'ambiance avec un petit son et c'est parti.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Baby, let me be.
Ray Charles naît dans une famille très pauvre en 1930 à Albany, en Géorgie. Il déménage ensuite en Floride et vit une enfance plutôt difficile. Il assiste impuissant à la noyade de son frère de 3 ans. Ensuite, à 4 ans à peine, il découvre qu'il est atteint d'un glaucome qui lui fait progressivement perdre la vue. À 7 ans, sa cécité est complète. Il est donc placé dans un établissement pour enfants aveugles et sourds. C'est d'ailleurs là, pendant près de 9 ans, qu'il se familiarise avec la musique. Il découvre aussi le jazz et le rhythm and blues à la radio, des styles qui vont façonner sa future carrière. Ray Charles perd sa maman à 15 ans. Il décide donc de quitter son institution et tente sa chance comme musicien à Jacksonville, puis à Orlando et à Tampa. En 1947, à Seattle, il rencontre un certain Quincy Jones avec qui il se lie d'amitié. Après plusieurs disques sans succès, Ray Charles enregistre Baby Let Me Hold Your Hand qui se place dans les premières places du R&B Charts en 1951.
Baby, let me hold your hand until I make you understand.
Ray Charles quitte ensuite sa première maison de disques pour Atlantic Records qui lui donne carte blanche pour ses compositions et c'est à ce moment-là qu'il s'éloigne peu à peu de ses premières influences Nat King Cole et Charles Bronze. Il se forge alors sa propre personnalité musicale. Il faut dire que son style, hein, une fusion entre le gospel, le R&B, le tout saupoudré de jazz, bien ça fait mouche auprès du public. Il devient un artiste hyper populaire et surtout un des premiers artistes noirs à être écoutés par des blancs. Ray Charles enchaîne les tubes et en 1959, son morceau What I Say, un des premiers titres soul de l'histoire, connaît un succès fulgurant.
Hey mama, don't you treat me wrong. Come and love you daddy all night long, all night long. Hey, hey, all right.
Après ça, il quitte sa maison de disques Atlantique pour ABC Paramount. C'est là que vont se succéder à la première place des pop charts Georgia on My Mind, Hit the Road Jack ou encore I Can't Stop Loving You. D'autres chansons continuent à culminer au top des R&B charts comme Unchain My Heart ou You Are My Sunshine. Quand je vous dis que ce gars c'est une usine à tubes, eh ben j'exagère rien. Il acquiert même le surnom de Genius de la Soul. Évidemment, avec une telle carrière, il a reçu de nombreux prix et honneurs. Il entre par exemple au Rock and Roll of Fame en 1986, il décroche 12 Grammy Awards, mais également la médaille de Chevalier des Arts et Lettres pour Georgia on My Mind, un titre qui devient d'ailleurs l'hymne officiel de l'État de Géorgie en 1979. La vie de Ray Charles, elle est marquée par les succès, mais aussi par des périodes plus sombres en raison de problèmes avec la drogue. En 2004, il enregistre un dernier album, Genius Loves Company, sur lequel il chante avec Norah Jones, B.B. King ou encore Natalie Cole. La même année, après 40 ans de carrière, plus d'une soixantaine d'albums et plus de 10 000 tournées à travers le monde, Ray Charles s'éteint le 10 juin 2004, donc à l'âge de 73 ans. Chapeau l'artiste.
C'est déjà la fin de ce Désamorce. Merci Magali, on te retrouve toi déjà ce soir pour Rock City.
Et oui, déjà dans le troisième épisode de Rock City consacré au B-Size, c'est toujours la même chose, hein, vous allez le voir, il y a plein de bonnes surprises, plein de découvertes aussi, donc... Voilà, soyez au rendez-vous.
Et rendez-vous donc à 19h pour Rock City. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Belle journée et déjà un très bon week-end.